Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres que vous pouvez retrouver, dont vous pouvez retrouver les derniers opus sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site Radio Alpa. On aurait pu vous parler de propagande. Ah, les chiffres. Les chiffres servent beaucoup dans nos contrées car ils ne mentent pas. Sauf que des margoulins, souvent en poste, cherchent avec une régularité sans pareille à nous faire prendre des conjonctures pour des structures. Sachez que cette semaine, le gouvernement libéral capitaliste en place a fortement communiqué sur la baisse du chômage. Une baisse historique, puisque les chiffres sont ceux de 2012. Donc, pour ces derniers, on s'aperçoit que l'histoire, c'est surtout celle du temps très court. Très court. 10 ans, oh, c'est historique. On comprend mieux pourquoi ils ne peuvent pas penser à organiser la société pour améliorer la condition de nos descendants. 10 ans, c'est déjà pour eux une toute autre époque. Dans sa communication, très bien relayée par les radios et télé d'État notamment, le gouvernement a publié quelques chiffres. Le document qui permet de donner des informations est produit par la DARES, la Direction de l'Animation et de la Recherche, des Études et des Statistiques, une administration tout à fait officielle. Le document en question, qui nous parle des chômeurs, comporte 17 pages. Mais pour beaucoup de journalistes en cours, eh bien, on s'arrête au communiqué de presse qui est fourni par la DARES. Et en l'occurrence, là, ça fait beaucoup moins. C'est beaucoup moins précis, mais ça va permettre de pouvoir donner les éléments de langage du gouvernement. Chaque trimestre, auparavant, c'était tous les mois, mais vous avez aussi des documents mensuels que vous pouvez trouver. Mais il n'y avait pas de communication. Avant, il y avait une communication tous les mois. Maintenant, il y en a une tous les 3 mois. Eh bien, la DARES indique les mouvements des populations de demandeurs d'emploi. Ça monte, ça baisse, ça stagne, voilà, ça bouge. Les demandeurs d'emploi sont divisés en plusieurs catégories. A, B, C. Ah, il y a même des E. Ce sont des catégories de demandeurs d'emploi qui doivent prouver une recherche active d'emploi en rapportant par exemple à leur conseiller qui est à la tête sous l'eau tellement il y a de chômeurs que 2 douzaines d'entreprises ont répondu par la négative à une lettre, un mail, etc. pour demander du travail. Les autres catégories n'ont pas ces obligations parce que ce sont des chômeurs en formation ou qui ont un emploi mais qui en cherchent un autre. Les propagandistes de la baisse d'emploi ne parlent souvent que de la catégorie A, définie par les médias à genoux comme la catégorie de référence. Et comme un miracle, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est sous la barre symbolique des 3 millions. Pile poil, premier trimestre 2022, il y a des élections à suivre, moins de 3 millions, oui, c'est symbolique. Bon, pour ça, il faut compter seulement la France métropolitaine. Donc le pays ne possède plus de miettes de l'Empire, non, il n'y a plus de colonies françaises dans les Amériques ou dans l'océan Indien. Ça n'existe plus. En tout cas, quand on veut faire croire qu'on a réussi à atteindre presque, en tout cas, on n'est pas loin. En tout cas, on est sur la bonne tendance. Le plein emploi, le plein emploi, comme si ça pouvait exister encore. Sur un an, on a appris que la baisse du chômage était de 16,5%, moins 586 000 chômeurs en catégorie A. Mais sur la même durée, il y a plus 100 000 chômeurs dans les catégories B et C. Ce sont des gens qui travaillent, mais parfois pas beaucoup. Et quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Du temps partiel de chez temps partiel. En clair, finalement, les temps partiels augmentent, alors que les temps pleins diminuent. Et donc dans les catégories A, B, C, la baisse finalement, si on calcule catégorie A, B, C, la baisse sur un an, elle n'est plus que de 8,4%. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir à ce rythme-là. En 12 ans, c'est le plein emploi. Bon, ça veut dire quand même qu'il faudra encore élire des clones de Macron et mettre des clones de Le Maire à l'économie, car ce qui apparaît en creux dans cette baisse historique, c'est la réussite du modèle de l'économie capitaliste basée sur la philosophie libérale. C'est pour ça qu'il faut transformer l'essai de la réélection de Macron en élisant une majorité de droite libérale à l'Assemblée nationale. Et regardez, en 12 ans, parce qu'il faudra le refaire plusieurs fois, ça sera le plein emploi. Il n'y aura plus de chômeurs, du tout. Comme si c'était une structure véritablement que nous voyons à l'œuvre avec une baisse conjoncturelle sur un an, après des temps un petit peu difficiles, voire délicats. En l'occurrence, je rappelle qu'en 2020, ça a été un petit peu n'importe quoi au niveau des statistiques. On a des pics vers le bas ou vers le haut. Mais 2021, 2020, 22, vas-y, je fais le lien. Il n'y a pas de souci. Premier trimestre 2021, premier trimestre 2022, baisse de moins 16,5% catégorie A. Je te le vends, t'es très content, tu trouves que je fais du très bon boulot. Tu vas donc voter pour mes candidats aux législatives. Voilà le message que cette baisse, qui est conjoncturelle. Mais assurément, comme celle de la fin des années 90 et du début des années 2000, eh bien, on ne doit pas évoquer, quand on est un média en cours, d'où l'idée historique qui nous ramène à 10 ans. Pas plus. Ouais, non, parce que si on va un peu plus, on pourrait se souvenir que oui, il y a eu déjà des baisses conjoncturelles comme ça, c'est-à-dire qui sont basées sur des éléments de très très court terme. Et pas du tout une lame de fond. Alors, on a vu des fois des baisses, des creux, et puis c'est remonté. Ah oui, c'est remonté. Hein. Parce que sur le temps long, nous verrions une augmentation permanente du nombre de chômeurs depuis la fin des 30 glorieuses, depuis le milieu des années 70. Mais l'histoire s'arrêtant à la décennie précédente pour le genre de libéraux qui nous gouvernent, eh bien, on peut pavoiser à la suite du gouvernement. Un autre chiffre donné par la DARES, mais oublié à la fois par le gouvernement et les futurs conseillers en communication ministérielle qui travaillent dans certaines radios et télé, ce sont les cessations d'inscription pour défaut d'actualisation. Oui, ah ben là, c'est pas page 1, là. Ah, dans le document de la DARES, c'est page 12. Donc, il faut aller gratter un peu. Et les cessations d'inscription pour défaut d'actualisation, en clair, chaque mois, les demandeurs d'emploi doivent actualiser leur situation. Par rapport à 2021, eh bien, cet indicateur augmente de 17,6%. C'est-à-dire qu'on a viré plus de monde pour cessation d'inscription par défaut d'actualisation. Je dis on a viré parce qu'il arrive parfois que le site bug. Oui. Alors avant, c'était la poste qui buguait. Comment ça? Je n'ai pas reçu votre actualisation quand ça se faisait par la poste. Là, ça peut être le site. Ça peut être vous qui avez oublié, bien sûr. Ça peut être vous qui ne voulez plus le faire. Mais dans ces cessations d'inscription par défaut d'actualisation, eh bien, on a toujours une partie qui est liée peut-être à la volonté du Pôle emploi de ne pas accepter le fait que vous vous soyez actualisé. Eh bien là, ça a augmenté entre 2021 et 2022 de 17,6%. Pour arriver à 234 400, alors qu'en 2021, on était à 196 000. Ah ben oui, une petite différence de 38 000, c'est pas mal. Quand on veut faire plonger une courbe sous les 3 millions. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, les chômeurs en catégorie A, ils sont 2 962 000. Quand on vous dit que ça a dépassé, c'est passé sous la barre symbolique des 3 millions, eh bien, c'est simplement juste en dessous. Hein. Ah, et c'est pas très très loin en dessous, hein. Faut pas exagérer. Il y a aussi des radiations administratives. Eh bien, les radiations administratives, elles atteignent 50 700 en nombre de personnes dont on a considéré au Pôle emploi qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait. Alors, ils ont été radiés. 50 700, premier trimestre 2022. Eh bien, ça avait bien monté depuis deux trimestres. Hein. Et là, c'est en hausse de 40% par rapport au premier trimestre 2021, où là, le chiffre était de 36. Donc si les chiffres étaient restés au niveau du premier trimestre 2021, soit 196 000 dans les défauts d'actualisation, 36 000 dans le nombre de chômeurs qui ont été radiés administrativement, eh bien peut-être qu'on aurait encore, dans, en la catégorie A, dépassé les 3 millions. Et là, le symbole était gâché, oui. Alors si on repasse la barre symbolique au second semestre, au second trimestre, pardon, c'est pas grave. Oui, parce qu'on aura les chiffres en juillet. Et les élections seront déjà passées. On aurait pu vous parler du travail législatif. On connaît depuis quelques années le travail de pointe que font les syndicats de policiers en matière législative, hein, puisque ce sont eux qui décident finalement de la façon dont ils doivent être protégés dans tous leurs agissements. La loi de sécurité globale étant une très bonne illustration de cette prééminence des bleus sur le reste de la population. Et cette loi de sécurité globale, elle n'a pas été votée par des policiers. Non, non. Elle a été votée par la majorité législative La République En Marche. Oui, oui, plus de 300 élus ont voté pour cette loi de sécurité globale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils espèrent être réélus. Ah ouais, et puis là, ça doit s'agiter dans les Landerneaux. Et bien sûr, on veut passer pour le bon petit soldat. Alors, La République En Marche a voté comme un seul homme pour la loi de sécurité globale, des propositions qui émanaient de la droite des syndicalistes, policiers, en l'occurrence Alliance. La semaine dernière, un policier tire une rafale sur une voiture, tue deux personnes, en blesse une troisième. La voiture n'avait rien à faire où elle était et le conducteur aurait foncé sur les policiers quand ces derniers ont voulu le contrôler. Et ben, un juge d'instruction a mis le policier qui a tiré en examen pour homicide volontaire. En clair, le gars aurait voulu tuer les occupants de la voiture. Alors, avait-il mal entendu les résultats du second tour ? Et il se croyait peut-être dans un pays d'extrême droite ? Était-il dégoûté d'avoir bien entendu les résultats du second tour ? Et auquel cas il s'est dit « Merde, avec Macron, c'est quand même pas aussi facile ». A-t-il craqué ? C'est-à-dire que il n'est pas policier d'extrême droite, ce qui est une minorité parmi les policiers. Ces questions demeurent totalement sans réponse. Mais Alliance, syndicat de policiers classé à droite, et ouais, c'est même officiel, relance l'idée d'une présomption de légitime défense. Plutôt que de vérifier si le policier qui utilise son arme est dans son bon droit, Alliance veut que la justice considère que le flic s'est défendu. Ouais, voilà, il s'est défendu, point barre. On part de ça, hein, d'accord. Ouais, ok, le mec était en train de se barrer, il était plus du tout une menace, il s'est pris 27 impacts, ok. Mais on considère que il s'est défendu. Non, là, du coup, ça passe pas tout à fait. La présomption d'innocence ne suffit plus pour les policiers. Alors, il y aura une manifestation bientôt. Si le mouvement prend, on peut s'attendre à une loi dans pas longtemps. Bah oui, la main sur la couture du pantalon, les députés voterait encore une protection supplémentaire pour la police qui en a bien besoin. On aurait pu vous parler des nouvelles de la fin du monde en ce moment, des températures extrêmes. Et quand je dis extrêmes, on dépasse allègrement les 40 degrés Celsius et on frôle les 50 degrés Celsius. Voilà les températures constatées dans le sous-continent indien, comme on dit, c'est-à-dire en Inde et au Pakistan, actuellement, hein, en ce moment-là. Hein. Sur cette semaine et là ce week-end. Sur une superficie 4 fois grande comme la France, coincée au sud de l'Himalaya, une population d'un milliard de personnes se coltine des suées comme on n'en a jamais vu. La NASA nous dit que la région pourrait devenir inhabitable vers 2050 à cause des températures trop hautes, du taux d'humidité trop haut qui empêche de suer et donc de se refroidir. Le GIEC a indiqué dans ses rapports que cette région du monde est particulièrement sensible au dérèglement climatique. Les décideurs, là. Les mecs qui, soi-disant, nous représentent. J'ai dit, mec, mais il y a aussi des femmes dans le lot. Ce serait bien, à un moment, de prendre en compte, les faits, la réalité. Ce serait pas mal, quand même. Alors, bien sûr, c'est loin. C'est loin, ouais, c'est le sous-continent indien. Disons que nous, on est dans une région à climat tempéré. Ça pourrait être cool. Ça va être cool. Ça va être très, très bien. On pourra avoir du soleil toute l'année. Ouais, mais ça va peut-être nous empêcher d'avoir de la nourriture parce que je rappelle quand même qu'il faut arroser les plantations pour que ça pousse. Alors, bien sûr, c'est loin, mais souvenons-nous que la Terre est une seule et même planète avec une seule et même atmosphère et que ce que nous déversons dans les océans ici, ce que nous balançons dans l'air ici, aura des conséquences là-bas. Oui, dans le monde entier. Les destins de tous les êtres humains sont liés. Alors, c'est pas dur à comprendre, pourtant. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière. On le sait maintenant. Les phénomènes climatiques se foutent pas mal des mesquines séparations inventées par des êtres humains en mal de pouvoir. Hein, des califes à la place du calife. Ah ben moi, si j'ai mon petit territoire et que je suis le chef, eh ben au moins, je suis le chef. Oh là là, quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, il serait temps d'agir, non pas pour nous adapter au dérèglement climatique, non, parce que ça c'est bidon, mais pour arrêter de l'entretenir. Les activités humaines sont responsables de la crise climatique. Eh bien, changeons d'activité. En France, l'air ressemble de plus en plus à un cocktail détonnant de polluants divers et pourtant, nous sommes contraints par notre animalité à le respirer. Ouais, on n'a pas le choix, hein. On est des êtres qui ont besoin d'air. Ouais, pourquoi? Parce que pour alimenter nos tissus en oxygène, il faut bien qu'on aille le choper quelque part, l'oxygène. Dans la bulle qui entoure la Terre, hein, l'atmosphère. Donc à force de la polluer, cette atmosphère, on a des petits soucis. Alors j'attends avec impatience les solutions techniques des propagandistes de l'adaptation qui nous bassinent les rouleaux avec des inventions qui reproduisent à grands frais des phénomènes que la nature fait très bien toute seule si on arrête de l'abîmer. Par exemple, le dioxyde d'azote, vous connaissez? La formule, c'est NO2. C'est un gaz brun-rouge toxique, suffocant à l'odeur acre et piquante caractéristique. Il constitue l'un des polluants majeurs de l'atmosphère terrestre. Il est notamment produit par les moteurs à combustion interne. Tiens, les bagnoles, les camtars, tous ces trucs-là, les scooters et compagnie, et les centrales thermiques. En clair, c'est produit par l'essence brûlée, le gaz brûlé, le charbon brûlé. Et en ce moment, à Marseille, à Lyon et à Antibes, si ça vous gratte la gorge, cherchez pas trop longtemps la recherche de la croissance économique amène tellement de monde à prendre sa bagnole pour se rendre au turbin, à produire tout et n'importe quoi, à livrer tout et n'importe quoi, et parfois des achats plaisirs, que forcément, à un moment, des énergies fossiles sont brûlées en quantité. Et ben là, sur Marseille, Lyon et Antibes, peut-être un peu trop, parce que du NO2, il y en a un petit peu trop. Alors, si vous êtes du côté de Rennes, ce sont plutôt les particules fines, en clair de la poussière, qui vous donnera des difficultés à respirer. Ah tiens, on a aussi l'eau. L'eau, un autre élément vital que nous passons notre temps à polluer avec des produits ménagers pour que ça sente bon chez nous, pour que nos vêtements sentent bon, pour que nos signes extérieurs de richesse, des signes extérieurs évidents de respectabilité que sont nos fringues, sentent le mieux possible et que nous-mêmes, animaux qui n'assumons pas, eh bien nous sentions bon également, partout. Oh, tu sens un petit peu la sueur? Ben oui, c'est parce que j'ai eu une activité. Mais non, tu ne dois sentir que le déodorant. Ah, c'est pour ça qu'il y a des déodorants 24 heures, 48 heures, où on voit des gens sortir d'une séance de sport, prennent pas de douche, ils se mettent du déodorant et tout va bien. C'est cool la vie, tiens. Et l'eau, eh ben l'eau, elle commence déjà à nous manquer. Et au 30 avril, par exemple, c'est-à-dire aujourd'hui pour les auditeurs du direct, 30 arrêtés pris dans 14 départements pour limiter les pompages agricoles, les arrosements, les arrosages de jardins, le lavage des bagnoles, autre signe extérieur de richesse et de respectabilité. Tout ça, ben oui, il y a des arrêtés qui disent non, il faut peut-être arrêter de la gaspiller l'eau là, parce que vraiment ça manque. Alerte. Et oui, ça s'appelle des alertes. En 2021, c'était 22 arrêtés dans 40... Je vais y arriver, 14 départements également. En 2020, c'était 9 arrêtés dans 9 départements. Comme quoi, ça commence de plus en plus tôt. L'eau commence de plus en plus tôt à nous manquer. En France, un territoire où on se plaint tout le temps que ouais, il fait moche. Il conviendrait d'agir autrement qu'en inventant des réservoirs de surface géants, les méga-bassines, pour des agriculteurs productivistes qui veulent continuer à arroser des cultures qui ne sont pas toujours adaptées au terroir sur lequel elles sont plantées. Ouais, les fameuses adaptations, bah, ces adaptations-là, c'est du bidon. La transition écologique annoncée par tous ceux qui ne veulent pas que nos pratiques économiques changent ne suffira pas. C'est tellement bidon que la ministre de la transition écologique actuelle, c'est Barbara Pompili, une libérale, donc favorable à l'économie de marché et à la saine concurrence. Produire pour produire, c'est bien chez les libéraux. Elle est ministre de la transition écologique. Eh oui, Barbara Pompili est ministre de la transition écologique. Pour vous dire à quel point on s'en bat les rouleaux chez nos représentants actuels. Elle a quitté les Verts en 2015 avec François de Rugy, ouais, on se souvient, et Jean-Vincent Placé pour fonder un parti écologiste qui s'est empressé de faire allégeance à LREM en 2017. Comment voulez-vous que ça marche, la transition écologique, avec des acteurs pareils ? Barbara Pompili, et pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, parce qu'il faut toujours produire plus d'énergie pour toujours consommer plus de plus. Eh oui, c'est la philosophie du libéralisme économique. Plus, c'est mieux. Comment voulez-vous qu'existe une transition écologique vers un monde plus propre, plus habitable et pour les générations futures si on a comme ministre de la transition écologique quelqu'un comme Barbara Pompili qui ne se pose pas la question de savoir à quoi vont servir les centrales nucléaires? Non! Elle se dit juste, il faut plus d'énergie. Eh ouais, plus c'est mieux, ça s'arrange pas. C'est pas une transition qu'il nous faut, mais c'est une rupture. Il faut faire un pas de côté, comme on disait dans l'an 01, pour essayer autre chose. Et essayer autre chose, bah, c'est d'arrêter de courir après la hausse du PIB, mettre fin à cette parenthèse de 200 ans. Ouais, en 200 ans, on l'a bien bousillé, la planète. Qui met le monde en charpie. Cette parenthèse libérale en économie qui nous fait croire que nous devons toujours et partout être en concurrence, tous contre tous. Eh bah, ça, c'est le programme de l'immense majorité de ceux qui vont se présenter aux élections législatives. Ils sont productivistes et libéraux. Qu'est-ce que vous voulez que la transition écologique fonctionne ? Imaginez la même chose dans une ruche ou dans une harde ou dans un troupeau. Des animaux sociaux dont nous sommes agissent ensemble, pas les uns contre les autres. Comment des hommes qui essentiellement... Oui, je dis des hommes. Parce que ce sont essentiellement des hommes, puisqu'on est au 18e et au 19e siècle, et que du coup, les femmes ne peuvent pas être aussi bêtes que leur... Si, les femmes qui peuvent être aussi bêtes que leurs congénères masculins, eh bien, n'avaient pas trop la parole au 18e et 19e siècle. Mais j'en veux pour preuve des Margaret Thatcher et compagnie, plutôt calées sur le délire économique libéral. Donc, comment des hommes ont pu considérer que le but de nos vies et de nos sociétés était d'accumuler le plus de richesses possibles? Le plus de richesses possible en comptant sur l'égoïsme de chacun poussé à son paroxysme. Tiens, ça me fait penser à ça.
Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les cons et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors, je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith.
Ouais, il fait bien d'être mort ce Adam Smith. On aurait pu vous parler de quoi ? Bah, d'envie d'y croire, parce que l'air de rien, le mardi 26 avril, dans les médias, le montage symbolique d'un mur devant le ministère de l'écologie semblait être la seule action pour dénoncer les beaux discours suivis d'effets contraires de ceux qui font semblant d'être nos représentants depuis 5 ans. En fait, une trentaine d'actions a eu lieu dans toute la France ce mardi 26 avril. Ça va de manifs contre un poulailler géant, et 200 000 poules pondeuses quand même, attendues dans cette usine dans le Tarn, à des rassemblements contre des contournements routiers aux dépens de terres agricoles, comme autour d'Avignon. Des collages pour rappeler les projets inutiles, comme un aéroport pour jet privé près de Bordeaux, qui est suspendu pour l'instant parce qu'il y a des gens qui l'attaquent, etc., etc. Également contre la bétonisation du monde par des aménageurs tellement contents de nous montrer à quoi doit ressembler un paysage moderne. Partout en France, il existe des collectifs locaux qui luttent contre des projets inutiles et qui ravagent notre environnement. Pour en savoir plus et peut-être même pour vous impliquer près de chez vous, afin de moins participer à la fin du monde et voire même essayer de la contrer, cette fin du monde, eh bien allez voir sur résistancelocale.org, résistancelocale tout au pluriel, .org. Également sur fr.squat.net, on apprend qu'il y a l'officialisation d'un nouveau squat à Bourg-en-Bresse pour accueillir notamment des migrants. Ça rassure un petit peu sur la solidarité qui peut exister entre les êtres humains. Au-delà de quoi ? Eh bien, au-delà de ceux qui font des petites carrières. À ce propos, on aurait pu vous parler de Tambouille. Celui qui n'accepte pas la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut être adhérent du Parti Socialiste. Eh, on en parle la semaine prochaine. Vous cherchez qui aurait bien pu dire ça ? Celui qui n'accepte pas la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. C'est quelqu'un qui le dit après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Non, c'est pas un discours de socialiste du début au 19e siècle. Non, après la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, c'est pas si vieux. Eh bien, qui est-ce qui nous dit ça ? On en reparle la semaine prochaine. Vous pouvez écrire sur l'adresse de l'émission. C'est pas moi, @no-log.org. On aurait pu vous parler du Covid, mais non, ça n'existe plus, il y a des élections. Ouais, je suis con des fois. Mais on a préféré vous parler de délégation de pouvoir, puisque je rappelle quand même qu'il y a eu des élections. Un certain Emmanuel Macron a été élu avec 18 760 639 voix, c'est-à-dire 58,5% des suffrages exprimés. Mais si on ramène ça au pourcentage des inscrits, c'est-à-dire tous ceux qui auraient pu donner leur avis, eh ben ça fait plus que 38,5%. 38,5%, 27,26% pour sa concurrente, en l'occurrence Marine Le Pen du parti d'extrême droite, le Rassemblement National. Donc il y a beaucoup de voix qui ont été perdues dans cet ensemble. Eh ben, où ça ? Ben, 38,5% seulement pour Emmanuel Macron des inscrits, parce que l'abstention est de 28%. Ça, c'est pas vu depuis 1969. Après 1968, c'est-à-dire à un moment où les gens étaient un petit peu désabusés, justement, de la politique. 28% de gens qui ne sont même pas allés voir s'il y avait quelque chose à faire. 13 millions de personnes inscrites sur des listes électorales et qui ne se sont pas déplacées. Un peu plus qu'au premier tour. Pourquoi ? Peut-être que certains se sont dit est-ce que ça vaut le coup de continuer alors que le candidat que j'avais plébiscité au premier tour n'est plus du tout là ? Ses valeurs non plus, ses idées non plus. 3 millions de personnes se sont quand même déplacées pour voter. Côté blanc ou nul, 2,2 millions pour les blancs et 800 000 pour les nuls. C'est-à-dire que 3 millions de personnes sont allées donner leur avis, mais ne pouvaient pas choisir entre un problème libéral et un problème libéral. Un problème libéral d'extrême droite et un problème libéral de droite. Ah oui, je les comprends tout à fait. Reste donc plus que 66% de voix exprimées, puisque les votes blancs et nuls sont considérés comme n'étant pas une expression. Ça aussi, c'est un peu pratique. Alors, qui a voté et pourquoi ? Eh bien, on apprend dans différents sondages que j'ai un peu compilé, que la moitié, voilà, pour le chiffre, ce serait ça, hein, des fois c'est 45, des fois c'est 55, la moitié de ceux qui ont voté pour Macron l'ont fait par adhésion au programme libéral. Donc, eh ben, la clientèle habituelle des partis de droite, hein, les propriétaires, les cadres, les retraités aisés, hein, c'est pas la majorité. Bon, ben là, c'est les deux tiers, hein, c'est ceux qui sont retraités avant les différentes réformes qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années, qui font qu'il y a de plus en plus de retraités dans la mouise. Et donc, la moitié des électeurs de Macron l'ont élu pour faire barrage à l'extrême droite. En oubliant un petit peu le bilan gouvernement animé, non pas par Emmanuel Macron, mais par Édouard Philippe et Monsieur Castex, avec du Blanquer dedans et du Darmanin. Bon, on se rappelle quand même que l'expression islamo-gauchiste, qui est une expression d'extrême droite, était reprise allègrement par des ministres comme le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, que la rhétorique d'extrême droite, elle était présente sur l'ordre, la nation, etc., était largement présente dans les discussions discours de Monsieur Darmanin qui trouve Le Pen trop molle. Et il y a eu toutes les lois liberticides, des lois d'exception contre les gilets jaunes, des pratiques d'exception au niveau judiciaire dénoncées par Amnesty International et d'autres ONG qui vérifient si véritablement la justice est rendue dans certains pays, des pratiques d'exception contre les gilets jaunes. Ah, c'était pas un gouvernement d'extrême droite, hein, non, c'était sous la présidence Macron 2017-2022 avec une majorité LREM à l'Assemblée nationale. Donc si on fait les calculs, 20% de la population, un électeur sur 5, bah ouais, j'ai pris 38,5, j'ai divisé par 2, j'ai arrondi un peu, 38,5% de ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales ont voté pour Macron. Et la moitié seulement l'a fait par adhésion. Donc si on arrondit, ça fait une personne sur 5 qui est pour le projet libéral. Eh bien, ça va quand même s'appliquer s'il a une majorité parlementaire. Une personne sur 5. Chez Le Pen, le chiffre est de 60% en termes d'adhésion. Là encore, en picorant sur les différents sondages de l'Express et compagnie. Un électeur sur 6. Adhésion aux idées xénophobes, un électeur sur 6. C'est beaucoup trop, mais quand on nous parle d'un raz-de-marée, pour le reste d'ailleurs, dans ceux qui n'ont pas voté par adhésion mais qui ont voté pour bloquer Macron, on trouve les ultramarins, ceux qui habitent dans les confettis de l'Empire qui n'existent pas au niveau du chômage mais qui existent quand même quand il s'agit de demander l'avis à la population. Hein, les électeurs d'outre-mer qui avaient voté très majoritairement pour l'Union populaire représentée par Mélenchon. Eh bien, ça les amène, par détestation de Macron, à voter pour un parti ouvertement xénophobe dont le programme réclame toujours une préférence nationale. Voilà donc le gros gloubi-boulga auquel on a affaire. Les ultramarins, pour faire barrage à Macron, votent Le Pen. Gloubi-boulga idéologique, en veux-tu, en voilà. La personnification extrême des enjeux politiques nous amène à ce genre de délire. Mais il est des populations qui plébiscitent l'extrême droite directement. Et par exemple, les gendarmes. Le magazine L'Essor, au service des personnels de la gendarmerie depuis 1936, dit le sous-titre, a fait un sondage le vendredi 22 avril sur les intentions de vote des gendarmes au second tour. Marine Le Pen arrive en tête avec 81%. Et 69% avaient déjà voté, selon le sondage, pour soit Zemmour, soit Le Pen, donc pour l'extrême droite. On est protégé par des gens qui votent à 80% pour l'extrême droite. Ah oui, ils sont d'accord avec l'ordre, c'est sûr. Par contre, il vaut mieux avoir la bonne couleur, sinon vous pourriez avoir des problèmes. De fait, que faire? Eh bien, comme disait l'autre, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une majorité de gauche pour éviter d'avoir un président de droite avec une majorité de droite qui vont pendant 5 ans appliquer des choses qui seront totalement insupportables. Alors, votez. C'est bien beau, puisqu'on nous demande notre avis, autant le donner, mais ce serait bien de le donner aussi, surtout quand on ne nous le demande pas. Et on verra peut-être ce qu'on peut en faire la semaine prochaine. En tout cas, ben, en attendant, on va se faire un petit jingle. Juste vous rappeler qu'il y a un village des luttes, place... Ah ben ça y est, je ne l'ai pas noté. Donc le 1er mai pour les auditeurs du direct, renseignez-vous sur Démosphère, alors je vais y arriver, sur sart.démosphère.net. Et donc le 1er mai, il y a bien sûr un cortège, mais aussi un village des luttes à partir de 10h dimanche 1er mai. Alors place de la Pref, je ne sais pas trop, place de la Rep, place des Jacobins, voilà, dans un endroit comme ça, ils sont pas trop loin les uns des autres, il s'agirait d'aller y faire un petit tour, puisqu'on ne peut pas faire la Vélorution comme à Lyon, avec un départ de Villeurbanne. Eh bien on ira voir quand même ce qui se passe à ce village des luttes, et pourquoi pas se mettre ensemble d'accord pour faire barrage à quoi? Barrage au capitalisme par exemple, parce que je rappelle que produire pour produire, ça risque de nous emmener dans un mur où il fera 50, 60, 70 degrés. Allez, en attendant, je vous dis tout simplement au revoir.